Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
C'est la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
A-t-on pissé dans des violons en marchant dimanche dernier dans les rues de France ? Liberté d'expression, non au délit de blasphème, mais non, ça rentre pas. Dès lundi et le dévoilement de la une du Charlie Hebdo post-attentat, les réactions sont venues polluer les marches de la veille. Exemple, interrogé par le Figaro, le président de l'Union des organisations islamiques de France a prévenu qu'il se tournerait vers la justice dans l'hypothèse d'une nouvelle représentation du prophète. Notre différend avec Charlie Hebdo portait sur le divin et le sacré qui ne doivent pas être caricaturés. Bon. En Égypte, l'autorité musulmane a qualifié de provocation injustifiée la nouvelle caricature de Mahomet. Encore mieux, comme le rapport RFI, The Guardian, qui avait fait un don de 127 000 euros à Charlie Hebdo, a tout de même averti ses lecteurs aventureux sur son site internet. Attention, cet article contient la une de Charlie Hebdo pouvant paraître offensante. Liberté d'expression quand tu nous tiens. Enfin, il y en a quand même pour qui cette une fait le bonheur. Dès cet après-midi, des exemplaires datés du jour se vendaient sur eBay jusqu'à 100 000 euros. Burk.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Dans une deuxième partie d'émission, nous recevrons les Red Hankies qui jouent au T-Rock Coco demain. Ils seront dans le studio dans une demi-heure environ. Mais d'abord, une semaine après la tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo, prenons des nouvelles des dessinateurs de la presse locale. Que représentaient Charb, Cabu, Tinius, Volinsky et Honoré pour eux? Quelle liberté dans les colonnes angevines? Quelle place pour l'impertinence? La folie Charlie Hebdo dans les kiosques ce matin va-t-elle durer? Alors on est dans la maison de la presse, le Ronceret dans la Doutre. Comment ça s'est passé, monsieur, ce matin à l'ouverture?
Beaucoup de monde, non? Beaucoup de monde en attente et malheureusement on n'a pas pu subvenir à leurs besoins puisqu'on a eu très peu de revues et donc on n'a pas pu fournir, quoi. Donc nous avons mis de côté ceux qui avaient réservé, mais sur les gens qui ont réservé, très peu ont été servis puisqu'on avait très peu de revues. Voilà.
Il y avait la queue?
Oui, largement. À partir de 6h15, il y avait la queue. Et avant mon ouverture de 7h05, il y avait une grande queue aussi. Et donc les gens sont partis satisfaits, bien sûr.
Bonsoir Benoît Vieillard.
Bonsoir.
On vous connaît sous le nom de Boz dans les pages de Ouest France. Est-ce que vous avez acheté Charlie Hebdo ce matin?
J'aurais bien voulu, mais bon, malheureusement, je suis arrivé trop tard, il n'y en avait plus.
Vers quelle heure?
Vers 9h, bah, j'aurais dû me lever plus tôt, en fait, parce que là, franchement, c'était difficile.
La pénurie. 700 000 exemplaires de Charlie Hebdo ont été vendus en quelques heures aujourd'hui dans toute la France. De quel œil est-ce que vous voyez la ruée vers cette revue ce matin? Est-ce que ça va être passager selon vous? Est-ce que c'est, ou alors est-ce que c'est un vrai investissement sur le long terme?
La question est un peu compliquée, mais je pense que ça va être, mon avis, passager, parce que les gens étaient quand même... beaucoup de gens ont manifesté dimanche, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas lu avant Charlie Hebdo, parce que c'est vrai qu'ils ne faisaient pas autant de ventes. Donc là, ils vont découvrir le vrai fond de Charlie Hebdo. Donc c'est quand même un magazine de très satirique. Donc après, il y a du bon et du mauvais goût, je pense. Après,
est-ce que ça va plaire à tout le monde?
Voilà, est-ce que ça va plaire à tout le monde? Ça, je ne pense pas.
Ouais. Hier, à votre place, nous recevions Yves Boiteau, qui est le rédacteur en chef d'Angers Mag, qui disait que, comme pour le 11 septembre, tout le monde se souviendrait de comment il avait appris la nouvelle de la tuerie de mercredi dernier. Comment est-ce que vous avez appris la nouvelle la semaine dernière? Où vous étiez? Qu'est-ce que vous faisiez?
En fait, moi, je travaille à la maison. Donc, curieusement, je n'avais pas la radio d'allumer. En fait, c'est ma femme qui m'a prévenu. Elle est rentrée en trombe dans la maison et elle m'a dit qu'elle avait entendu la radio. Donc, on a vite allumé la télé puis on a vu ça. Ça a été un choc, quoi. Voilà.
Quelle a été votre réaction? La première réaction, vous êtes dit quoi?
Ma première réaction, je me suis dit, ça y est, on a notre 11 septembre. C'était la première réaction que j'ai eue. Et encore, à ce moment-là, on ne savait pas qu'il y avait des morts, en fait. Hein. On a su qu'après. Donc, Ça a été, et puis très rapidement, Ouest-France, pour qui je travaille, m'a contacté pour que je puisse réfléchir à un dessin, parce que voilà, moi je travaille dans l'urgence, donc il a fallu très rapidement que je trouve, je produise quelque chose pour cet événement, quoi, qui était dramatique, mais bon, et donc heure par heure, il a fallu que, on a découvert en fait le drame, quoi. Qui est venu en fait, qui est venu progressivement, mais très rapidement aussi, parce qu'il s'est passé quelques heures, quoi, avant de savoir. Donc voilà, ça c'est aussi du fait que moi je suis toujours à l'écoute de l'info, donc j'ai besoin tout de suite de rapidement de savoir concrètement ce qui se passe. Et là, c'est vrai que c'était quand même un événement à travers mon métier. C'est vrai que c'est quand même assez rare d'avoir un événement aussi dramatique. C'est quand même très exceptionnel, quoi.
Qu'est-ce que vous avez dessiné, alors ? Est-ce que vous pouvez nous décrire le dessin que vous avez ?
Le dessin que j'ai fait, c'était plutôt très... Bah, bon, habituellement, dans la caricature, on essaye d'être dans l'humour, mais là, pour le coup, c'était très, très, très grave. Donc, j'ai préféré plutôt travailler sur le côté plus hommage, en fait. Hein. Donc, au moment où j'ai commencé à dessiner, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne savais pas encore qu'il y avait des morts, on savait qu'il y avait des blessés. Et puis en fait, j'ai eu une nouvelle de la part d'un ami qui m'a appelé et qui m'a dit qu'on savait qu'il y avait au moins 4 dessinateurs de décédés à ce moment-là. Donc en fait, je suis parti là-dessus. En fait, j'ai un petit peu... Si je peux décrire mon dessin, c'était... J'ai fait une comparaison avec... La Deuxième Guerre mondiale, en fait, c'était les Américains qui sont arrivés sur l'île d'Iwo Jima. Et il y a eu, à l'époque, un photographe qui a pris une photo de 4 Américains en train de planter le drapeau américain. Photo très célèbre, très connue. Et donc, voilà, moi, je suis parti là-dessus. Donc, j'ai transposé cette scène, qui est mythique, par ces 4 dessinateurs qui, au lieu de dresser un drapeau, dressaient un crayon, quoi. Donc, c'était en hommage... à ce qu'ils ont fait pour Charlie Hebdo et que la liberté de la presse doit continuer et doit continuer à rester dressée pour faire face à l'adversité et faire face à la terreur, quoi. Il faut pas se laisser faire, quoi.
Vous lisiez Charlie Hebdo avant ?
Je vous avouerai, j'étais pas un grand lecteur de Charlie Hebdo. Effectivement, quand j'étais assez curieux à chaque fois des couvertures, en fait, hein, parce qu'il y avait déjà des couvertures choc. Hein, mais effectivement, j'étais pas. Pour moi, il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui sont moins bonnes. En tout cas, à mon goût. Hein, après, voilà, c'était à la limite trop satirique pour moi et trop dur des fois pour certains sujets. Ouais.
Qu'est-ce qui représentait Sharp, Cabu, Wolinski, Tinius et Honoré pour un dessinateur de presse comme vous ?
C'est quand même des modèles. Après, en tout cas, pour un dessinateur de presse, c'est des modèles, parce que c'est quand même des personnes, même si on n'apprécie pas forcément toujours leur dessin au niveau du choix satirique, hein, mais par contre, c'est vrai qu'ils avaient une certaine liberté, même la plus grande liberté qu'on peut avoir en tant que dessinateur. C'est aller très loin dans la caricature, dans la critique. Et puis bon, et en même temps, moi, j'étais bercé en plus par Cabu étant petit, parce qu'on le voyait à la télé en plus, parce qu'il passait au Club Dorothée. Donc, c'est mon âge. Je ne vais pas dire mon âge, mais bon, c'est mon âge. Et donc, forcément, on ne pouvait que suivre. Moi qui dessinais déjà tout petit, forcément, tous les mercredis, je le voyais. Donc, il m'a encore plus donné envie de dessiner. Du fait de le voir dessiner comme ça, en direct, c'était quand même quelque chose, quoi, pour moi. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été à l'origine d'une impertinence dans le dessin de presse ?
Ah bah oui, ça... Avant Charlie, avec Harakiri, mais c'était la même équipe, avec le professeur Choron, tout ça, c'est vrai qu'ils sont... Il n'y avait pas de tabou avec eux, donc c'était très, très ouvert. Et bien sûr, ils ont souvent été partis en procès, hein, mais ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas eu peur, mais bon, jusqu'à ce drame. Hein. Voilà.
On va continuer la discussion avec vous, Boz, juste après Motorama, avec Corona. Thank you.
20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et ce soir dans le sous-marin, on parle des dessinateurs de la presse locale en compagnie de Benoît Vieillard alias Boz dans les pages de Ouest France. Et tout de suite, je vous propose d'écouter Michel Foucault qui est dessinateur de presse pour le Courrier de l'Ouest et qui a commencé à dessiner dans les colonnes en 1982.
Au début, ce qui m'intéressait, c'était de faire de la caricature. La caricature élaborée, vous voyez, plutôt Morchouane, Mulatier surtout. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des caricatures politiques et après des dessins de presse, mais ça s'est fait... Je ne suis pas parti dans l'idée de faire du dessin de presse au départ. Hein. Ça s'est fait naturellement, quoi. Ça, il y a eu une évolution dans ce sens-là.
Est-ce qu'il y a une évolution également dans votre liberté de dessiner, de s'exprimer dans les pages au fur et à mesure des années, que ce soit en mieux ou en moins bien?
Alors ça dépend de celui qui commande les dessins, parce que comme le journaliste est quand même responsable de son papier et de la, je suppose, de l'illustration, alors après ça dépend. Il y a des gens qui sont plus rentrent dedans, donc j'ai plus de marge de manœuvre. Il y en a qui sont plus réservé, donc je fais attention, c'est en fonction du... Moi, personnellement, j'ai pas de limite, mais enfin, je me compare pas à ceux qui ont fait les frais de terroristes. Hein. Moi-même, quand je suis un peu plus agressif, ça reste, ne serait-ce que par l'actualité locale, c'est jamais aussi virulent qu'une actualité internationale, vous voyez.
Mais quand même, vous nous dites que c'est pas vous qui avez le dernier mot sur... Ce qu'on va mettre dans le journal, ce sont des journalistes ou des rédacteurs en chef, c'est ça?
Non, moi je fais, on me soumet un article ou une chronique le samedi et je leur propose plusieurs brouillons et c'est eux qui choisissent celui qu'ils préfèrent. En général, je fais ce qui me plaît et ils choisissent dans ce qui me plaît.
Jusqu'où est-ce que vous permettez d'aller, Michel Foucault?
Alors moi justement, après, si vous voulez, je ne vais pas... Je me limite à ce que je suis à peu près sûr de ce qui va paraître.
C'est-à-dire?
De temps en temps, je suis sur la ligne, je dépasse un petit peu pour essayer de faire avancer. Mais après, c'est le journaliste qui décide ce qu'il va choisir. Et comme lui, il est pris entre le rédacteur en chef et les lecteurs qui peuvent gueuler, vous comprenez bien que c'est moi personnellement... Qu'est-ce que vous voulez qu'il me fasse? Ouais, moi, je peux faire n'importe quel dessin, même obscène. Moi, je travaille pas à la rédaction. C'est pas les mecs qui vont pas venir chez moi. Alors, vous voyez, j'ai plus de liberté. Mais le journaliste qui me commande un dessin, lui, il va falloir peut-être qu'il affronte des mécontents physiquement, quoi.
Vous disiez que vous vous arrêtiez là où vous saviez que le journaliste s'arrêterait. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez dessiner quoi? Qu'est-ce qui peut passer et qu'est-ce qui ne passera jamais? On va commencer peut-être par ce qui passera jamais.
Ben déjà, je travaille pour un journal, c'est pas un journal d'opinion, c'est un journal tout opinion, le Courrier de l'Ouest. Alors l'intérêt, c'est de faire ça en douceur, par la bande, mais vous comprenez bien qu'on va pas se fâcher avec, si par exemple il y a des catholiques sensibles, je vais me limiter, même moi, personnellement, je vais tenter le coup, mais je sais très bien que certains dessins passeront pas, par exemple.
Que représentent pour vous Cabu, Sharp, Wolinski, Honoré et Tinius, les dessinateurs qui sont morts lors de la fusillade dans les locaux de Charlie Hebdo il y a une semaine?
Alors ça, c'est assez spécial parce que, vous voyez, moi, quand j'étais petit, quand j'allais chez le dentiste ou chez le toubib, je feuilletais Jour de France, Paris Match, je ne sais même pas s'il existait parce que c'est loin. Mais par contre, je me rappelle des dessinateurs comme Lavergne, Testu, Gade, tout ça. Et déjà, j'aimais bien ce genre de dessin, mais c'était assez... politiquement correct. Et quand je suis arrivé à l'école de dessin publicitaire, je suis tombé sur Harakiri. Et depuis, j'ai toujours suivi Harakiri. Après, il y a eu Pilote avec le Grand Duduche, alors Cabu. Et donc, ce sont des gens qui m'ont accompagné jusqu'à maintenant. Quand je vais à Angoulême, bon, des dessins, j'en ai vu des centaines de ces gars-là. Un peu moins de Charb, parce qu'ils sont arrivés un peu après, ou Tinius. Et moi, ce qui m'a fait bizarre, c'est que le graphisme, le style ne change pas. Les mecs, ils vieillissent, ils prennent des rides, du bide, ce que vous voulez, mais le dessin ne change pas. Et moi, comme je vois plus souvent leurs dessins, je les ai pas vus vieillir. Ça m'a fait bizarre d'apprendre que Cabu, il avait 77 ans ou Wolinski avait 80 ans, quoi. Donc ça m'a fait un drôle d'effet d'en voir 4 d'un coup alignés, après 5 parce qu'on aurait, la presse l'avait oublié au début. ça m'a fait un, ça m'a fait bizarre, quoi, parce qu'après, je les ai vus vraiment vieux, alors que dans ma tête, rien qu'avec le style qui ne changeait pas, pour moi, ils étaient toujours jeunes. Donc,
Est-ce que ces dessinateurs, ces caricaturistes, journalistes, ont permis aux dessinateurs de libérer leurs plumes et d'aller toujours plus loin ?
Ben, j'en sais rien, parce que tout dépend de la ligne éditoriale. Il y a des gars comme Villemain ou même ceux dont vous parlez, là, il faut qu'ils trouvent un support ou qu'ils le créent eux-mêmes pour vraiment se lâcher. Ils ne peuvent pas, vous pouvez mettre Charb au Courrier de l'Ouest ou ce que vous voulez, vu que ça peut heurter des gens qui ne sont pas habitués, qui n'achètent pas le journal pour ça, leur dessin ne passerait pas. Il serait forcément brimé, quoi.
On vient d'entendre Michel Foucault, donc dessinateur pour le Courrier de l'Ouest, et on est en compagnie de Buzz, dessinateur pour Ouest France. D'après vous, Buzz, qu'est-ce que vous apportez au journal de différent qu'un photographe, par exemple ? Pourquoi est-ce qu'on choisit un dessinateur pour illustrer un article plutôt qu'une photo ou une photographe ?
Bah parce qu'en fait, la photographie montre le réel en fait, par rapport à un événement. C'est vraiment l'image du moment, mais par contre le dessin, c'est quand même un ressenti d'une personne, donc voilà, on interprète, on transforme une réalité en fait, hein, et donc c'est on s'accapare l'info et on essaye de la modeler à notre façon, quoi.
Sur quel type de sujet vous intervenez ? Est-ce que c'est que politique ?
Non, c'est un peu de tout. Ça peut être culturel, ça peut être politique, ça peut être religieux aussi. Mais bon, c'est moins évident on y a à illustrer, mais non, tous les sujets. D'autant plus que là, en fait, je travaille, donc je fais un dessin tous les dimanches, donc je suis libre en fait de choisir le sujet. Donc après, voilà, c'est en fonction de l'événement de la semaine, des événements de la semaine. Voilà, je développe ça.
Vous dites que c'est plus difficile à illustrer la religion. Pourquoi ?
Plus difficile en fait, parce que par rapport à notamment au journal pour lequel je travaille, après, et même pour moi en fait, d'autant plus avec ce qui s'est passé là avec Charlie, avec l'événement de la semaine là, c'est vrai que après il faut prendre du recul avec ça, parce que ça peut, il y a des sujets. Alors avant, on avait des choses compliquées, notamment par rapport à la politique, où des fois il y avait des choses pas évidentes, on pouvait vite avoir des procès. Il y avait aussi avec l'armée, c'était difficile, mais il y a, bon, depuis c'est passé, maintenant on peut un peu se moquer facilement des soldats. Et maintenant, c'est vrai que ça, la difficulté, c'est par rapport à la religion. Alors je sais bien qu'avec Charlie, ils ont, parce que voilà, il y a l'histoire des musulmans, mais ils ont critiqué, mais ils ont fait des dessins sur toutes les religions, hein. Tout le monde y est passé avec Charlie, donc le journal pour qui je travaille, le Ouest France, c'est un journal grand public en fait, donc il y a toutes les religions en fait, et faut pas heurter les personnes qui sont dans ces religions là. Donc
concrètement, c'est quoi les limites que vous vous fixez ?
Les limites ?
Oui. Alors, qu'est-ce que vous vous permettrez jamais de dessiner ?
Alors moi, j'ai pas de limites à mon niveau. Après voilà, c'est en fonction de la demande des journalistes qui me donnent les articles, et en fonction de la ligne éditoriale du journal. Moi je travaille pour un journal grand public, donc j'essaye d'être respectueux par rapport aux attentes aussi des personnes qui le lisent. Moi j'aurais, des fois c'est vrai que j'aurais envie de choquer un peu plus. Mais par contre, là, il faut que je cherche un autre journal.
Comme donc, disait Michel Foucault, en fait, lui dit, je sais que ça va pas passer, donc je vais le faire. Vous, c'est pareil, il y a une espèce d'autocensure qui se...
Une autocensure, oui, avec le temps. En même temps, moi, ça fait pas très longtemps que je suis en activité par rapport à ce genre de dessin de presse. Mais effectivement, au début, j'ai tenté des choses pour les premiers dessins. Et puis, je voyais que ça bloquait, donc...
Quelle chose ? Pardon d'insister.
Vous voulez savoir des choses.
Qu'est-ce qui passe pas ?
Alors par exemple, bon, on veut donner quelque chose de concret. J'avais un article à faire sur le passé d'une personne qui a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, quelqu'un qui a collaboré avec la Gestapo. Et donc il fallait que j'illustre un article par rapport à ça. Donc voilà, vu que j'étais parti pour faire des choses humoristiques, là d'un coup, paf, je tombe sur un sujet qui est moins évident pour faire de l'humour. Parce que ça peut heurter des gens. Donc, j'avais proposé différents dessins et finalement, on est parti sur quelque chose de plus sage. Et c'est la rédaction qui m'a dit non, on ne va pas faire ça, on ne rigole pas avec ça. Alors, moi, je leur ai dit, on ne rigole pas avec ça, mais en même temps, on me demande de faire un dessin. Donc, voilà, après.
Qui a le dernier mot alors?
Qui a le dernier mot? Je pense que c'est le journal. mais bon, c'est des compromis. Après, on discute, hein, on discute beaucoup. C'est ça, là, en fait. Mais c'est comme, en fait, Charlie Hebdo, c'est pareil. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu des reportages de Charlie Hebdo. On les voit se réunir, ils discutent. Il n'y a pas qu'un dessinateur qui dit « moi, je fais ça, pouf, point barre, on l'imprime ». Il y a quand même beaucoup d'échanges. Donc, c'est ça aussi. Voilà, on est dans la liberté d'expression, mais en même temps, c'est un travail commun. Donc, chacun donne son avis. Il y a une première idée, puis après, l'autre dit « viens renchérir sur une autre ». Et là, ce qui se passe, c'est que là, bon, il n'y a pas de réunion. Moi, je ne me déplace pas à Ouest-France, mais par contre, je discute beaucoup avec le rédacteur en chef qui me dit ce qu'il faut faire. Bah, il me dit, voilà, moi, je voudrais illustrer tel article. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, moi, je propose des idées, plutôt en écrit. Hein, je dessine même pas à ce moment-là. J'envoie des petits mails. Et puis, quand ça va pas, on rediscute, on rajoute des choses, on en enlève. Même à la limite, le dessin, on n'est pas obligé de refaire un dessin. On peut peut-être remanier un dessin, quoi. À la limite, changer le texte de la bulle, quoi. Ça peut suffire des fois.
Est-ce que malgré cette retenue, vous avez déjà eu des retours de lecteurs ou même de personnes, de modèles que vous auriez croqués?
Non, pas encore. Mais ça avait passé longtemps que je suis dans le... Peut-être. Ça avait passé longtemps, donc pour l'instant, je n'ai pas eu de retour. À moins qu'il y en ait eu dans le journal, mais le journal ne me l'a pas dit.
Michel Foucault, tout à l'heure, disait que l'actualité locale étant moins virulente que l'actualité nationale, c'était difficile d'aller autant dans le satirique. Pour vous, il a raison, la presse locale permet moins, rien qu'en termes de sujet, d'aller dans la satire. C'est quoi la différence entre la caricature, le dessin de presse en national et en local?
Je sais pas. En fait, il faudrait que je teste le national, vu que je ne l'ai pas testé. Non, en fait, effectivement, le national est lu par plus de personnes. Il y a peut-être des choses où on peut s'éclater peut-être à caricaturer des grandes personnalités dans la politique, dans la religion, dans tout ce que vous voulez, dans le sport. Mais en même temps, on peut trouver de l'intérêt dans le local. Des fois, il y a des événements, notamment Charlie Hebdo. Là, ça a touché aussi le local. Donc, on a pour un dessinateur, c'est vrai que c'est un événement on peut pas y échapper, quoi. Donc, j'ai dessiné des choses autour de ça. Donc, résultat, des fois, il y a des liens entre le local et le national qui sont intéressants. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait un grand écart entre le national et le local. Après, voilà, on trouve son bonheur dans les deux cas, quoi. Voilà.
Est-ce que les événements de la semaine passée à Charlie Hebdo vous confortent dans l'importance que vous avez en tant que dessinateur de presse continuer à travailler?
C'est un peu... en fait, comme ça fait pas si longtemps que ça que je suis en activité par rapport à ce domaine-là, je me rendais pas forcément compte, hein, en fait. En plus, c'est vrai qu'on fait ça à la maison, on est dans son coin, on est à l'affût de l'actu, bien sûr, mais on n'est pas au cœur par exemple, on travaille pas tous les jours avec le journaliste, donc j'ai oublié la question, je sais plus.
Est-ce que ça vous conforte les événements de la semaine passée dans le dans votre rôle à tenir au journal?
Oui, ça me confond. Oui, effectivement, ça, l'importance, c'est encore plus important, c'est-à-dire que ça fait réfléchir. Forcément, c'était dramatique. Donc, résultat, on se dit finalement, l'image a beaucoup peut toucher beaucoup de personnes du bon côté, mais comme du mauvais côté. Là, c'était vraiment du mauvais côté, mais chaque trait peut être très important et chaque trait peut être interprété différemment par des personnes aussi. Parce que c'est ça aussi l'humour, c'est que l'humour peut avoir plusieurs degrés, donc faut faire attention à ça. Et il faut connaître tous les degrés d'humour quand on fait un dessin, parce que sinon, ça risque de nous échapper et puis de tomber dans une faille qu'on n'avait pas devinée. Et puis voilà, après, on peut regretter après.
Ça vous est déjà arrivé ?
Pas pour le moment, mais tout ce que je dis, ça me fait réfléchir par rapport à ce qui s'est passé. Parce que en tant que dessinateur, on se dit, mais si c'était nous, comment on aurait pu... je sais pas, moi, je me mets à la place de Cabu. C'est vrai qu'ils étaient... c'était des gens qui avaient pas de tabou, quoi. Et hop, ils y allaient, hein. Ils avaient des idées. Tac, ils partaient sans tabou, sans frein. C'est une sacrée volonté. Moi, je sais pas si je pourrais le faire. C'est la question... où j'ai pas de réponse pour l'instant. À voir.
Merci beaucoup, Boss, d'avoir été avec nous ce soir. On vous lit donc dans les pages de Ouest France.
Ouais.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
C'était Brand New Shoes de Sweet Like an Ape Eye.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et à présent, dans le sous-marin, on reçoit The Red Hunkies. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Salut.
Je dis donc bonsoir à Jen. Bonsoir à la guitare.
Bonsoir.
À Simon, bassiste.
Oui, c'est ça. Bonsoir.
Bonsoir. Gabi, bonsoir.
Bonsoir.
Guitare et chant.
C'est ça.
Et il nous en manque un quatrième. Il s'agit de Mathieu à la batterie.
Oui, c'est ça.
C'est
ça.
C'est bien ça. Donc, vous faites partie du groupe pop-punk angevin Red Hunkies qui joue demain soir au T-Rock avec The Flanders et 1000 Directions.
C'est ça.
On reparlera du concert et des modalités d'accès en fin d'interview. D'abord, parlons pop-punk. Ça fait un peu oxymore, quoi. Enfin, c'est deux mots qu'on n'a pas l'habitude de voir côte à côte. Dans les années 90, on a pu le découvrir avec des groupes comme Green Day ou Blink-182, pour citer vraiment les plus connus. Mm-hmm. Comment est-ce que vous définissez le pop-punk? Ça se montre du doigt pour se donner la parole.
Non, bah, je sais pas. Enfin, c'est un mélange de, c'est du punk rock, mais joué un peu plus soft, quoi. Enfin, avec plus de mélodies et.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment avec l'influence, ouais.
L'influence côte ouest américaine, ouais, quoi. Ouais. Avec du coup Green Day, Blink-182, NoFX. Quoique NoFX, on est plus dans le punk rock, un peu plus speed et tout, mais ouais, c'est ça. Enfin, c'est une idée que. Bah que ça reste l'esprit punk énergique, mais avec une touche un peu plus
sans
pop,
les paroles engagées, quoi. Forcément, c'est plus on garde la musique sans l'engagement, ouais, politique derrière, forcément, quoi. Ça devient plus pop, quoi.
Vous y êtes arrivé comment au pop punk? Est-ce que c'est avec les groupes que j'ai cités tout de suite, ou est-ce que c'est complètement d'autres influences?
Ah non, si entre autres, oui, mais c'est ces influences là dans les années 90, oui, j'écoutais ça à fond au lycée, notamment à cause des potes.
Non, parce on que partage la musique. C'est quoi. Gab qui est plus à l'origine du projet, quoi. Et ouais, effectivement, après, on s'est tous retrouvés dans ces influences-là, mais c'est vrai qu'à la base, toi, t'es très, très Green Day, enfin, tout.
Ouais, bien sûr.
Les 90, quoi.
Jen, vous vous influencez?
Moi, ça va être. Enfin, en fait, je suis pas dans le pop-punk depuis très longtemps. Et c'est par ce groupe-là, du coup, que j'ai été initiée, on va dire. Mais avant, c'était plutôt rock soul, en fait. Voilà.
Genre, des noms?
The Bell Race, par exemple. Voilà.
Est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'histoire de la formation? Parce que je crois qu'elle a pas mal bougé. Bon, là, vous êtes... là, on a cité quatre noms au début, mais voilà. Comment ça s'est créé? Et quel mouvement il y a eu jusqu'à aujourd'hui, Gabi?
C'est vrai que ce groupe, c'est un peu le bordel, surtout niveau bassiste.
Ils ont défilé les bassistes.
Ouais, c'est plus ça, ouais. À la base, on était Mathieu, le batteur, et moi, on est là depuis le début.
Quand alors?
Depuis 2010, je crois. Non, 2012, pardon. C'est mon tatoueur, en fait, qui m'a dit qu'il connaissait des mecs qui cherchaient un gratteux. Du coup, je les ai contactés. On a commencé quelque chose et le bassiste, en fait, il pouvait pas continuer. On a fait quoi de répète, et parce qu'il avait du travail à Nantes, etc. Il pouvait pas suivre. Donc on a cherché après un bassiste qu'on a trouvé avec qui s'appelait Thibaut, qui joue dans les Tiger Sharks. Et ça a duré un peu moins d'un an. Et donc on a quand même, on s'est dit, on continue. Et donc là, on était vraiment en galère cette période-là, parce qu'on a, carrément, Mathieu est passé à la basse et on a trouvé un batteur, donc...
Ah oui, ça je savais pas, aussi t'avais dû en parler une fois, mais je me rappelais plus. Ouais.
Ça a duré deux mois, c'était pas possible.
Ça le faisait pas.
Ça le faisait pas du tout, non. C'était la merde. Et après on a trouvé Simon. Enfin, il nous a trouvé finalement, je crois que c'est toi qui nous a contacté,
Ouais. En fait, moi j'organisais des concerts sur Angers et puis j'avais demandé à Red Hunkies de... S'ils voulaient venir jouer, j'ai organisé une soirée dans un bar à Angers. Et puis ils m'ont dit, bah non, c'est pas possible, en fait on n'a plus de bassiste. Je dis, ouais, d'accord, ok. Et puis du coup, là, une semaine plus tard, j'y ai un peu réfléchi. Et je dis, bon bah, moi je fais de la basse, est-ce que ça vous tente qu'on fasse un essai, quoi? Puis bah, on s'est rencontrés comme ça, et puis bah, ça a bien fonctionné. On s'est tout de suite plu.
C'était le coup de foudre.
Jen, dans l'histoire, comment est-ce que
bien,
vous arrivez?
Moi aussi, on a en fait le même tatoueur.
Oui.
Tout se passe chez le tatoueur.
Ouais, c'est ça, ouais, en plus, c'est ça. Ouais.
Donc, on le remercie beaucoup, d'ailleurs.
C'est
et du coup, ouais, il a dit, ouais, je connais un groupe et tout. Ça serait pas mal qu'on rajoute une deuxième guitare. je pense que ça pourrait bien le faire et tout. Donc il m'a donné le contact de Gab et je l'ai appelé du coup et voilà, ça s'est fait.
Ouais, elle est venue faire une
répète. Assez simplement, quoi.
En fait, il est tatoueur et entremetteur.
Un peu, ouais.
Pardon pour cette question cliché, Jen, mais elle vient d'une nana, donc on me pardonnera peut-être. Comment on se fait sa place dans un groupe entouré de mecs comme ça, un groupe de pop punk?
Bah, en fait, l'esprit punk, c'est aussi un esprit assez cool et ouvert.
Enfin, ouvert. Oh, puis on n'est pas des machos.
Voilà, c'est ça. En fait, ils sont vraiment, c'est des gars vraiment cool et du coup. J'ai pas du tout ressenti de différence parce que j'étais une nana, quoi.
Bon, c'était une question débile, pardon.
Non, pas du tout. Non, c'est pertinent. Non, c'est très pertinent. D'autant plus qu'il y a dans le rock. Moi, je trouve qu'il y a pas peu de filles, ouais. Quoi. C'est dommage. Mais il en faudrait beaucoup plus, quoi. Puis,
en plus, ça ramène du monde.
En plus, ça ramène du monde. Il est con, lui.
Quel regard vous portez sur la scène punk pop en Gine? Est-ce qu'elle a été accueillante avec vous? Puis est-ce qu'elle est assez dynamique à l'heure actuelle?
Ça, je vais laisser
Simon.
Je vais laisser Simon répondre.
C'est le plus au courant. Scène que je connais assez bien parce que j'ai eu pas mal de groupes sur Angers et tout. Et effectivement, c'est une histoire d'amis en fait sur Angers. Les groupes punk rock sur Angers, ils sont très peu déjà. Enfin, je sais pas, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Notamment dans ceux qui tournent le plus, il doit y avoir Wank for Peace, les fameux. Il y a aussi Homesick, La Rupture. Enfin voilà, il y a d'autres groupes, mais on est très peu dans ce circuit-là, et ce qui fait que tout le monde se connaît, quoi. Et tout le monde apprécie la même chose, et puis se retrouve autour des mêmes valeurs, donc on a joué combien? 2-3 fois sur Angers? Avec Alankis? Vous avez joué un peu plus que ça, mais...
C'est vrai qu'on se retrouve du coup parfois avec les mêmes groupes,
ouais.
Donc c'est ça qui est cool, après on se donne des contacts, on s'entend tous bien, donc s'il y en a un qui peut pas une soirée... Hop, on va proposer un autre groupe.
Ouais, ça, puis c'est famille, ça quoi. Reste un milieu indépendant, donc on n'a pas de rivalité quelconque ou quoi. Enfin, ça reste une histoire de copains, ouais.
Les Red Monkeys, en termes d'EP, sur votre Bandcamp, il y a donc 2 démos en ligne et un EP en ligne, un EP qui devrait sortir en physique bientôt, c'est ça? Est-ce que vous pouvez m'expliquer
Il sort demain.
Il sort, oui. Enfin, il est déjà sorti.
On le déclare demain, ouais.
C'est un peu ça.
Ça s'est passé comment l'enregistrement et où est-ce que ça s'est passé? Vous êtes entouré de qui?
Vas-y Gab, raconte.
On s'est entouré de... c'est toi qui as proposé, je crois, d'enregistrer chez Joël Lefloc, notre ami Joël Lefloc.
C'est Fabien, en fait, Nantes. C'est le bassiste du groupe Justine, qui joue aussi dans... Enfin, qui jouait, je sais pas si on peut dire qu'ils sont morts, mais dans Ultra Vomit. Et il a un studio dans sa maison, c'est chez lui, enfin c'est dans sa chambre en fait, il s'est fait un studio, ça s'appelle le Chipolata Framboise Studio. Et j'étais déjà passé là-bas avec mon autre groupe en fait, qui s'appelle The Flanders, qu'on joue demain ensemble aussi. Et puis ça s'était super bien passé, c'est quelqu'un que je connais déjà depuis un petit bout de temps, qui connaît bien le punk rock, qui aime beaucoup ce style-là, et puis qui s'investit à fond, et voilà, qui pratique des prix plus que raisonnables, donc on s'est dit, allez, on lui propose le truc. On avait enregistré des petites pré-prod, des petites démos, avec Mathieu, le batteur. Puis on lui a envoyé ça à Fabien, et ça lui a tout de suite plu, donc il a dit, allez, on se fait ça, quoi. Qu'on est allé enregistrer chez lui sur 2 week-ends. Marrant.
Simon, vous venez de le dire, vous faites aussi partie de The Flanders, qui joue aussi demain au T-Rock.
Ouais.
Comment vous allez gérer la soirée avec deux groupes de formation?
Ça va être compliqué. En plus, on joue les uns à la suite des autres, mais ça va le faire. Hein. Dans Red Ankies, en fait, je fais la basse et dans les Flanders, je fais le chant. Donc, c'est deux postes différents. Donc, je vais essayer de m'économiser l'un d'un côté comme de l'autre. Mais bon.
Pas trop non plus.
Hein. Non, tu me connais.
Ouais.
En juillet dernier, au Barfly à Angers, vous aviez donné un concert mais en acoustique.
Oui.
Et demain soir c'est électrique.
Enfin, électrique, ouais.
C'est quoi votre préférence, va vers quoi?
On sera tous d'accord pour dire que c'est l'électrique, c'est électrique, je pense. Ouais.
L'acoustique, c'était pourquoi alors au Barfly?
C'était, on avait fait déjà un premier essai à Cholet. Mais ça s'était super bien passé.
Ouais, c'était super bien. Ouais. Mélodie Nelson.
Ouais, au Mélodie Nelson, ouais. Et c'était cool, il y avait pas mal de monde, c'était un samedi soir. Et au Barfly, c'était un peu le four hein, quand même. Il n'y avait pas
grand monde.
C'était en juillet aussi.
C'était en juillet,
les gens avaient déserté la ville.
En plus, il faisait pas beau. Et non, ça reste électrique quand même. L'acoustique, c'est un bon exercice. C'est un bon exercice, mais
Disons qu'on y est venu. Enfin, c'est un peu une question d'accessibilité en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Enfin, Melody Nelson, ils voulaient nous faire jouer, mais ils nous ont dit on n'a pas assez de place dans notre bar pour mettre une batterie et des amplis. Donc, est-ce que vous voulez venir jouer en acoustique? Du coup, on a improvisé un set. Enfin, on a répété 2-3 fois. On a essayé de trouver des trucs. Puis bah voilà, les bars qui nous contactaient, on leur disait bah nous on joue en électrique mais on peut
faire les deux. Le Barfly, en fait c'est à chaque fois le hasard, c'était que le Barfly, on avait prévu une soirée, mais Mathieu a dû se décommander à cause du boulot, mais on n'a pas voulu annuler, donc sans batteur c'est chaud, donc bah acoustique quoi.
Donc demain on s'attend à quoi? Donc électrique.
Ah oui,
bien électrique.
Et à quoi ça va ressembler sur scène?
Des amplis à fond,
de la sueur.
De la sueur.
Je sais pas.
De la saturation.
De la...
des gens
de la générosité.
Non, mais du coup, en plus, demain, on sort officiellement le disque, c'est un peu la soirée.
Ouais, on
et
va
puis,
se lâcher,
bah, c'est pareil, ouais, voilà. Et puis, on est qu'avec des potes, donc je pense que ça ne peut que bien se passer.
La classique question sur le nom de votre groupe maintenant. Red Hankies. Comme je suis bilingue, je sais que handkerchief, ça veut dire mouchoir en anglais. Hankies, handkerchief, on me suit. Donc mouchoir rouge, c'est mouchoir ça. Rouge Cholet. Qui est Choletais ici?
C'est moi.
Et alors c'est quoi? C'est une fierté là?
Non, mais pas du tout. J'ai rien contre ma ville natale. Mais c'est que c'est pas facile de trouver un nom de groupe de nos jours. Il y en a, enfin, avec Internet, etc. Avec ça devient facile de partager sa musique avec tous les sites. Avant, il y avait comment ça s'appelle,
MySpace.
MySpace, oui. Maintenant, ça se perd un peu, mais c'était un peu avec ça que c'est né. Et du coup, voilà, Red Hankies s'est trouvé que c'était pas pris, donc on l'a pris. Après, je me suis rendu compte que c'était un bar de fist à San Francisco en le tapant sur Google. Donc j'ai décidé de mettre un Z.
Comment est-ce porte la scène musicale à Cholet?
Cholet, c'est triste à Cholet, il n'y a que le Barouf. Grâce au Barouf, il peut y avoir un peu de concerts.
Il y a quelques groupes quand même à Cholet.
Des groupes, oui, il y a un peu de tout à Cholet, mais après
ça.
Pour...
Des lieux, ouais, ça manque de lieux.
Ça manque un peu de lieux, peut-être. Ça, ouais.
Après, il va y avoir, mais pas à Cholet, mais au Messurèvre à côté, quoi.
Le Métis Bar, d'ailleurs, si... On passe à l'occasion, un petit coucou à notre copine Herveline. Du Métis Bar, parce que ça bouge là-bas et c'est un petit lieu de campagne, mais
il faut y aller,
ouais, carrément.
Enfin, pour l'instant, vous êtes à Angers et ça se passe demain soir au Terroc Coco. On rappelle donc que vous êtes avec The Flanders, qui ont participé au Face-to-Face du 300.
Ouais, c'est ça, exactement.
Et 1000 Direction, le prix est libre.
C'est ça, c'est prix libre.
Et ouverture des portes à 20h30, je dis pas de bêtises.
C'est ça, c'est ça. 20h30 au Terroc Coco, rue Borpea. Et puis bah voilà, on vous attend nombreux. En plus, je signale au passage que les 1000 Directions ça fera partie de leur dernier concert, parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient se séparer bientôt. Donc raison de plus pour venir.
Date mythique. On va écouter Nation of the Abused, pardon pour l'accent. Et en fait, vous m'avez dit avant en micro que c'était pas du tout un bon choix de morceau.
Non, c'est pas un bon choix. En fait, ce morceau-là, on l'a enregistré quand il y avait Thibaut. Du coup,
c'est pas la formation.
C'est un vieux morceau, il sonne pas aussi bien que les nouveaux. En fait,
voilà.
Mais c'est très bien.
On pourra que être ravi demain, alors en entendant
voilà.
Les nouveaux.
Voilà, c'est ça. Vous viendrez acheter le CD demain.
Bien sûr, très bien la monnaie.
Merci beaucoup, Red Hankies, d'avoir été dans le sous-marin ce soir.
Merci.
Say that you were looking for me. Don't you know I'm your knight? Your heart is a bombsite, and I'd do anything to make it all okay. Wow. She thinks that ball is a sign, 'cause now I'm for the first time she's in love with someone who loves her in the same way back. Rebecca used to be victimized, knew too many passers-by. Take back a previous life, no way.
a bum side, and I'll do anything to make it right. Rebecca used to be victimized, knew too many passersby. Take back a previous love, no way.
La perme de ce soir, ça se passe au Shabadas et Joycut à partir de 21h. L'entrée, c'est 5€. Et si vous voulez vous mettre en jambe, vous pouvez aller cliquer sur le www.radiocampusangers.com et réécouter l'interview qui a été diffusée hier soir dans le sous-marin. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Tous les mardis soirs à 21h, c'est le Johnny Clash Show. Johnny Clash traverse les États-Unis en musique, et hier soir aussi.
Me too. All right. It hurts me too. Elmore James. Ouais, ça me fait mal à moi aussi. Toute la peine du monde dans sa slide guitare, celui-là. Sa dernière session d'enregistrement, juste avant son ultime crise cardiaque. Mon cœur à moi bat toujours, mais il est un peu brisé. Bon, le prochain morceau sur ma cassette, c'est Winter is Coming, du groupe Elf Power. Un groupe très prolifique, qui fête ses 20 ans cette année. Des potes du défunt Vic Chestnut, des multi-instrumentistes souvent très émouvants. Winter is Coming est sorti en 2000, et il prend tout son sens aujourd'hui.
Vous pouvez réécouter la totalité du programme sur le www.radiocampusangers.com et dans un instant, dès 20h, c'est Pas de Panique qui reprend l'antenne en 2015. Salut Profi.
Salut Tiffaine.
Bonne année.
Bah toi aussi, bonne année 2015.
De quoi ça cause ce soir dans l'émission Geek ?
Ce soir, on parle de fin du monde, on parle d'horreur, on parle de survival horror, de zombies, de cerveaux, de sang, d'explosions.
Super année 2015 quoi.
Ah oui, on aime bien faire les choses en grand.
Vous êtes positif. C'est donc dès 20h. Sur le 103 FM, nous on se retrouve demain à 19h. On évoquera le numérique à l'université. Merci à Thomas qui a co-préparé l'émission et à Maëlle pour la réalisation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.